Boulevard 102, Gravel en retour qui se poursuit. Dans les prochaines minutes, on jase avec Nancy Doyon, SOS Nancy, coach familial. Généralement, elle règle bien des problèmes pour les parents, j'ai envie de vous dire. Si vous avez des questions, 88-971-1021, vous ne vous gênez pas parce qu'on va parler de plusieurs sujets qui sont au final totalement interreliés. Nancy, salut.
Salut, salut.
La relâche, tu n'as plus d'enfants en bas âge, hein? Fait que c'est pas comme si ça t'impactait personnellement, mais j'imagine que tu reçois une couple de messages.
Oui, puis tu sais, c'est comme une semaine où je clenche un paquet d'affaires que j'ai pas le temps d'habitude, fait que c'est ça.
Ça roule.
Fait que ça relâche pas beaucoup.
C'est jasant début de semaine, toi et moi, de quelques articles qui nous ont inspirés, puis on en a parlé un peu en onde aussi, tu sais, l'ennui chez les enfants. On dirait que c'est pas quelque chose qu'on est capable de bien supporter aujourd'hui. Il faut être un géo, un gentil organisateur en tout temps, il faut faire mille et une activités. C'est comme dur de ralentir parce que sinon, bien, la solution souvent pour plusieurs jeunes enfants, ados, c'est l'écran, c'est le sel. Puis c'est pas ce qu'on veut. L'ennui chez les enfants, est-ce qu'il faut comme l'accepter à un certain point, l'éviter? Et où la balance dans tout ça?
Mais en fait, tu sais, comme d'habitude, ma réponse sera « ça dépend ». Je trouve que tout se trouve dans l'équilibre. C'est vrai qu'on a une génération d'enfants qui sont habitués d'être tout le temps organisés, structurés,
stimulé
et animés par l'extérieur. Tu sais, même les bébés, là, on se promène en poussette avec les bébés, ils ont une espèce de tableau de bord en avant avec 12 000 pitons puis des bruits. Tu sais, on se sent mal à l'aise comme parents de les laisser tranquilles. Ils s'en vont en garderie, on a horaire de premier ministre, on vient à la maison, la routine s'enchaîne. Les fins de semaine, on s'en va voir ma tante Tortubise, on fait du ski, on n'arrête pas. Puis effectivement, quand on n'est pas là pour s'en occuper, ben on a tendance à leur mettre un écran dans les mains. Et là, on a toute une génération de 2 ans à 18 ans qui sont très intolérants au vide. Et je vais être plate, là, mais on a un paquet d'enfants qui ne savent pas jouer. Nos enfants manquent d'imagination. Tu sais, moi, quand j'étais petite, là, 3 boîtes, puis 2 morceaux de bois, puis on trouvait quelque chose avec ça. Tu sais, de la neige, c'était un jeu en soi. Tu sais, on se faisait des forts, on se faisait des glissades, des poupées, des cibles, des ça. Mais c'est fascinant de voir les enfants aujourd'hui que quand on leur montre pas un scénario, ils s'en trouvent pas, qu'ils savent pas comment. On leur donne des blocs Lego, ben oui, ils vont suivre le modèle, mais ils s'emmerdent, c'est pas trop long.
Ça se répercute plus tard à l'école. Parle-en à des enseignants quand ils vont arriver pour faire des productions écrites, même les plus simples. Ils sont pas capables de créer de par eux-mêmes. Ils vont toujours se fier à quelque chose qu'ils connaissent déjà. Puis ça, c'est d'une tristesse de plus être capable d'avoir d'imagination.
Exact. Plus d'imaginaire, mais tu sais, aussi plus de tu sais, l'imaginaire pour créer justement comme ça, mais en même temps, la capacité à rester seule, tu sais, à l'école, là, on leur demande de prendre une feuille, un crayon, puis de se concentrer ça et d'être en silence. Ils capotent. Fait que c'est une des raisons pour laquelle ça bouge tant dans les classes présentement, parce que les enfants, le vide, le silence, la solitude, ils sont pas bien là-dedans, ils angoissent.
Il me semble qu'on justifie beaucoup. Il y a tellement de TDA puis de TDAH.
Ça aussi.
Peux-tu y avoir un lien avec justement le fait que parce qu'on ne l'a jamais laissé un enfant est-ce qu'on a créé ça?
Bien, écoute, pas tous les TDAH. Le vrai TDAH existe, mais dans un de mes livres, Parents responsabilisants, je montre des étapes de responsabilisation. Puis une d'entre elles, la deuxième étape, en fait, de responsabilisation d'un enfant, c'est d'apprendre à tolérer des délais. Et là-dedans, il y a les délais dans la demande d'attention, les délais dans la stimulation. Apprendre à développer une espèce de monde d'intérieur aussi, tolérer la solitude. Et oui, quand ça, c'est pas intégré, quand on arrive à tolérer une frustration, ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas appris à tolérer un « oui, mais tantôt ». Quand l'enfant n'arrive pas à être seul, il n'arrive pas à se taire.
Le silence est intolérable.
Bien, c'est ça, il n'arrive pas à se taire en classe. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent avoir des symptômes de TDAH et que ce n'est peut-être pas un problème neurobiologique.
Est-ce que le fait qu'il y ait moins d'enfants aussi dans les familles, ça peut jouer? Parce que, tu sais, tantôt, on disait « oh, on jouait dehors, la neige, c'est un jeu, une boîte, c'est un jeu », mais… Moi, j'avais une sœur puis un frère avec qui jouer.
Exact.
Il y a plus d'enfants uniques. Comment on... C'est un peu normal aussi que les parents soient plus impliqués à essayer d'entertainer les enfants quand il n'y a pas des frères et sœurs pour le faire à notre place?
Bien, il y a ça. Il y a aussi le fait que, comme justement, il y a de plus en plus de parents qui laissent leurs enfants sur des écrans, bien, si toi, t'envoies tes enfants dehors là, pendant la semaine de relâche, ils n'ont pas 8 petits amis dans la cour, là, dans la rue, parce que les autres enfants sont soit animés justement par leurs parents d'activité quelque part. Tu sais, c'est une espèce de... Oui, c'est un cercle vicieux. Fait que, tu sais, il y a le fait qu'on a moins d'enfants, on passe moins de temps avec nos enfants, fait qu'on a tendance à surinvestir ce temps-là. On se met une pression comme parents de dire, ben moi, je vais être un bon parent, impliqué, bienveillant.
J'allais dire, j'ai l'impression que les parents sont anxieux aussi de laisser leur enfant s'ennuyer. Et combien de temps tu laisses un enfant à lui-même pour que ce soit bénéfique, tu sais?
Bien, j'adore ta question. Je te dirais que dès l'âge de 2-3 ans, on devrait laisser les enfants jouer seuls, en silence, sans être occupés, pendant 10-15 minutes de façon régulière. Donc, il y a régulièrement une alternance entre « je suis là pour toi, on joue, t'as une animation externe, mais il y a d'autres moments où tu joues tout seul. » 10-15 minutes. Après ça, vers 4 ans, 5 ans, on va monter à 20 à 30 minutes. Et un enfant de à peu près 8-10 ans devrait être capable de s'occuper tout seul pendant au minimum une heure et demie. Là. S'il n'est pas capable de faire ça, bien, il est temps qu'on le travaille.
Comment? Parce que j'imagine que si tu commences sur le tard, tes enfants peuvent faire des méchantes crises. Là.
Bien, les enfants ne réagissent pas bien, c'est sûr.
Bien, c'est ça que j'allais demander. C'est que, par exemple, ben, je vais parler de mes enfants. Là. Tant qu'à être ici, je prends une consultation gratuite.
On le fait tout. Hein?
J'ai eu comme deux enfants uniques. Moi, il y a 11 ans de différence entre mes deux enfants. J'en ai un qui s'occupait très bien tout seul.
Exact.
Puis moi, j'étais très sensibilisée à ça. Il faut qu'il s'ennuie, puis l'imagination, puis on joue avec des boîtes et tout ça, pas de problème. Mon deuxième est plus demandant un peu. Mm-hmm. Et si je ne joue pas avec lui, il me dérange tout le temps. Là. Parce que aussi, comme parents, on a besoin de temps des fois pour faire autre chose. Puis moi, on fait beaucoup la police de l'écran à la maison. On essaie vraiment de limiter le temps. Mais qu'est-ce que je fais, moi, si mon enfant dit « Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. » Puis là, je dis « Bien, va jouer, gars. Il faut être dans ta boîte. Je suis sûr que tu vas trouver quelque chose, etc. » Mais à un moment donné, on dirait que je ne sais plus comment l'aider à jouer seul.
Puis là, tu as dit deux affaires importantes. Tu sais, il y a le fait que les enfants sont tout le temps occupés, qui, là, les amène à tout le temps vouloir être occupés, mais il y a aussi une question de tempérament. Tu as des enfants qui sont plus gourmands d'attention que d'autres, tu as des enfants qui sont plus débrouillards que d'autres, fait qu'il y a une question de tempérament. Maintenant, le piège, c'est que quand j'ai un enfant qui a un tempérament plus dépendant, si je réponds tout le temps à sa demande, je l'entretiens dans sa dépendance. Donc, à un moment donné... Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est de dire, OK, moi, ce que je veux travailler avec toi, Justin, c'est d'apprendre à jouer seul pas de bâtir ton imaginaire. Fait que je vais te montrer comment faire, puis après ça, je vais t'obliger à avoir des moments sans écran, sans amis, sans animation, puis ben là, il y a un bout qui t'appartient. Fait que où tu t'en sers, puis tu fais ce qu'on a vu ensemble. Je t'ai donné des outils, je t'ai montré comment jouer, comment t'animer. On a essayé de trouver ensemble des passions, des choses comme ça. Puis après ça, ben là, si tu décides que tu te regardes pousser les ongles d'orteil pendant 30 minutes, à chaque fois que je mets un 30 minutes, ben là, ça t'appartient. Et là, on le laisse un peu mijoter dans le malaise, parce que c'est intéressant d'avoir en tête que pour tout humain, peu importe l'âge qu'il y a, c'est souvent le malaise qui va faire qu'on va être un peu plus motivé à changer quelque chose. Pas de malaise. Là. Tant que l'enfant nage à le confort, « Écoute, moi, j'ai juste à réclamer de l'attention et j'en ai parce que mes parents voient que je suis gourmand d'attention. Ben, si j'ai pas de malaise, pourquoi je change? »
On veut leur éviter tout malaise, on dirait. Ouais. Tout inconfort, oui.
Exact,
des fois.
Exact. Et on a vraiment confondu dans les dernières années la bienveillance, c'est vouloir le bien d'eux, avec « mon enfant ne devrait pas vivre d'inconfort ». Il est anxieux, je le rassure. Il est frustré, je tempère sa frustration ou j'y trouve une alternative. Il n'a pas d'amis, je vais faire le géo. Il ne sait pas comment s'occuper, je vais jouer avec lui. Donc, on est beaucoup là-dedans, effectivement.
Bien, y a-t-il un travail que tu as à faire sur toi aussi comme parent, j'ai l'impression, parce que... Écoute, on est bien accompagné là, à Boulevard. Là. On a toi, Nancy, on a aussi une spécialiste du comportement humain, une psy. Moi, à force d'écouter toute cette belle gang-là, là, je me dis que ça, je vais vraiment être une mauvaise mère ou une sacrée bonne mère parce que je m'en occuperai pas. Là.
Je trouve ça intéressant.
Hey, tout le temps, 24-7, je suis là puis je m'analyse. T'sais. À partir de quel moment l'ennui peut devenir problématique plutôt que constructif? En fait, est-ce que ça se peut, premièrement?
Oui. Ben oui, en fait, c'est ça. C'est là où il faut qu'il y ait quand même une alternance. Tu sais, je voudrais pas que des parents prennent ce que je viens de dire comme excuse pour dire hey,
pour pas s'en occuper.
Moi, cette semaine, je m'en occupe pas.
Non, je t'as des sandwichs au ballonnet dans le frigo, débrouille-toi.
Arrange-toi.
Tu sais, fait faut qu'il y ait quand même une alternance. On doit nourrir aussi la relation avec notre enfant. On doit aussi nourrir le sentiment qu'on a le goût de passer du temps avec eux. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je trouve poche. C'est qu'il y a beaucoup de parents qui vont donner beaucoup de temps à leur enfant, vont beaucoup jouer avec eux, mais tout le temps avec une espèce de soupir de « Bon, je vais jouer avec toi. »
Jamais de bon cœur,
oui. Oui, c'est fun, ça. Hein. Fait que l'enfant, il est occupé, mais en même temps, il a l'impression de nous taper ses nerfs. Fait que ça, je trouve ça triste un peu. Fait qu'il faut qu'il y ait une espèce d'alternance dans... Puis là, ben, tu sais, aussi... Dans les jeux libres, il y a des jeux organisés. Je t'ai montré comment jouer au bloc Lego, admettons, ou on t'a monté des tentes dans le salon, puis je te laisse aller un peu. Là, j'accepte que ce soit le bordel dans mon salon. Des moments où c'est du jeu dehors, des jeux à l'intérieur, des jeux organisés, puis des jeux où c'est juste des jeux créatifs. Là, je veux dire, on fait des roulades, puis c'est ça le jeu. Des moments où on est ensemble, puis on fait des activités structurées, on va faire des activités, il y a plein d'affaires tripantes à faire à Québec, puis des moments où on est juste ensemble, mais dans l'être, dans la relation, on fait un bricolage, on est en dessous des couvertes le matin, on chatouille, on placote, on se flatte les cheveux, on est juste là, ensemble, dans le relationnel.
J'ai une suggestion aussi pour les ma tante, mon oncle, grand-papa, grand-maman. C'est les jouets qu'on offre aux enfants.
Oui.
Je trouve qu'on a beaucoup tantôt, c'est parce que ça m'a allumé, tu as dit, c'est le bloc, c'est les Lego, là, puis là, on fait le modèle du Lego. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, on avait un gros bac de Lego.
Exact.
Puis là, il fallait qu'on invente quelque chose.
On l'inventait.
Et
j'ai fait beaucoup de maisons.
Des maisons, des toutes sortes d'infrastructures qui ont fait des ingénieurs.
J'y allais pour la station-service.
Oh.
C'était le toit plat.
Oui.
Mais c'était toute la même maudite base verte. Puis
oui.
On était dépareillés.
On avait des rectangles verts, puis on jouait avec ça. Mais maintenant, il monte le vaisseau Star Wars, puis après ça, on n'est plus jamais capable de le refaire. Ça a un seul usage, etc.
Ouais.
Moi, je trouve qu'il y a des jouets qui ont plusieurs usages. Là. Par exemple, hier, on avait la visite...
Les blocs magnétiques.
Des blocs magnétiques. Ouais. Là. Puis là, tu peux faire plein de choses avec ça. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'on s'offre plus des cadeaux, moi, mes neveux, nièces, filleuls et tout ça, des choses qui stimulent plus l'imagination que juste ce robot qui
Antonine,
avec
je
des
le
batteries...
Fais, mais il pleure à Noël.
Pour vrai?
Mais les enfants sont un peu ingrosses.
Mais quand ils ouvrent leurs cadeaux, des fois, ils sont comme « Ah, ouais, poche ». Mais
ben
finalement,
oui.
C'est le jouet avec lequel ils vont jouer le plus longtemps.
J'ai reçu un message de ma nièce ce matin. J'avais des trucs de scrapbooking que je me servais plus depuis 15 ans. J'ai donné la boîte à ma mère, puis elle l'a sortie pour le relâche. J'ai eu un beau merci. Alors que j'y aurais donné ça dans un autre contexte, puis elle aurait pleuré.
Ben, c'est ça.
Ben exactement. Puis des fois, il faut initier le jeu, justement, prenons le scrapbooking. Ben oui, il faut initier ça. Il faut aller peut-être chercher des modèles, justement, ces réseaux sociaux, puis sur Pinterest, mettons, pas le nommer. Puis ben, on va chercher des modèles. Puis là, ben, on en fait un peu avec le jeune. Il associe. Ah oui, tu sais, c'est cool, c'est un beau moment. Mm. Puis après ça, il va être capable de le faire tout seul. Fait que, tu sais, est-ce que l'ennui peut devenir. Puis là, je veux vraiment répondre à ta question. Quand est-ce que l'ennui devient
problématique?
Quand nos jeunes attrapent l'adolescence et que là, ils se mettent à s'isoler dans leur chambre,
et voilà.
À temps plein, sur des écrans ou même à travers de la lecture. Quand j'ai un jeune qui passe tout le temps son temps à s'isoler, on peut bien se dire, bon, écoute, il est adolescent, il a besoin d'un peu plus de temps tout seul, c'est correct, mais il faut aussi alterner puis forcer un peu pour que notre jeune passe du temps avec nous.
Fait que ça,
cette semaine, il y a des parents qui sont obligés de faire le géo, puis il y a des parents dont les enfants, ils ont la flemme.
Mmh.
Et leurs jeunes ne veulent rien faire, aucune activité. Et eux autres, ils se regardent pousser les ongles d'orteil à temps plein. Là.
Fait que, ils regardent beaucoup leur téléphone aussi. Hein.
Oui, c'est ça. Ben là, ça, c'est un des pièges. J'ai laissé les jeunes sur le téléphone en disant, ben là, je démissionne. Hein, coudonc, il y a juste ça qui l'intéresse. Mais aussi de juste laisser nos jeunes s'isoler. Fait que là, à un moment donné, il faut y sortir de là.
Je veux qu'on parle des parents qui en font trop. Parce que des fois, on a l'impression qu'on manque de patience et on exclut la personne qui parle. Mais justement, c'est pas peut-être lié à une surcharge, le fait des fois qu'un parent est irrité, est plus sec, est plus impatient. La surbienveillance, je pense, on peut appeler. J'ai envie qu'on en jase un peu de ça parce que je trouve que c'est thématique aussi avec la semaine de relâche puis le fait de jouer au jeu.
Ben exact. Puis si les gens se le tentent, là, j'ai écrit une série de textes là-dessus qui font beaucoup réagir d'ailleurs sur ma page Facebook SOS Nancy. Tu sais, tantôt, je disais, on a beaucoup confondu la bienveillance avec l'absence d'inconfort. Et là, je réalise à quel point tout ce qu'on a... Puis là, je m'inclus, là, les intervenants, ça fait plusieurs années, on a voulu faire sortir les parents de l'espèce de rapport de force, d'autorité écrasante avec les enfants, puis on les a amenés vers plus des approches plus positives et bienveillantes.
Mais on dirait qu'on est trop dans le panneau à l'autre bord.
Ben oui, c'est ça. Puis j'ai des parents, tu sais, où je réalise que des choses que moi-même, je leur ai dit comme suggestions, c'est devenu des injonctions pour eux. Fait que, tu sais, si on prend l'exemple, est-ce que c'est bon de lire des histoires avec nos enfants?
Oui.
Oui. Hein, c'est bon, ça leur apprend à aimer la lecture, puis c'est des moments tendres. Est-ce qu'on est obligé de lire une histoire à tous les soirs avec nos enfants, fatigués, pas fatigués, puis même si le petit dernier ne veut pas dormir? Ben non. Tu sais, fait que je vais pas...
Moduler les attentes.
Ben oui, puis je vais pas bousiller mon enfant si ce soir, ça me tente pas de lire une histoire parce qu'il a passé sa soirée à m'envoyer promener, là.
C'est pas des dogmes.
Oui, c'est ça.
C'est des balises, des objectifs qu'on se met, mais il ne faut pas virer fou non plus. Mais on se met tellement de pression comme parents, ça n'a aucun sens.
C'est fou, braque. Je pense que c'est...
Pourquoi? Hein?
La pression des réseaux sociaux, de la famille parfaite.
Parce que t'es rat pas, là.
Ben, c'est ça.
J'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur d'y rater.
Mais t'as peur d'y rater. Puis on a moins d'enfants. Je m'excuse d'insister là-dessus, mais tu sais, on en a un, on en a deux.
Tu peux pas te reprendre
là,
sur le troisième.
On les regarde. Ben non, c'est ça. C'est mais non, mais on les regarde, là. Puis là, c'est comme un outil de performance qui va déterminer. Exact. Notre valeur comme personne.
Exact. Nos enfants deviennent notre bulletin de parents. Si mon enfant se comporte bien, je suis un bon parent. Si mon enfant est heureux, je suis un bon parent. Si mon enfant pleure, oh my God, je suis en train de le scraper. Puis, je le cacherai pas, là, les oreilles me frisent, puis les yeux me chatouillent depuis déjà un bout. Il y en a des intervenants qui mettent une pression extraordinaire aux parents. Tu sais, on a beaucoup entendu parler dans les dernières années des violences éducatives ordinaires. Violence éducative ordinaire, c'est les affaires poches qu'on fait quand on éduque les enfants. Tu sais, du genre, viens ici, puis je le pogne par le bras, puis je l'amène. Moi, je m'imagine mon chum qui me prend par le bras pour m'amener quelque part, ça se pourrait que j'aie envie de le mordre. C'est vrai que c'est poche. Mais ça fait partie de la liste des violences éducatives ordinaires. Mais là, moi, comme parent, quand on me dit que je suis violente quand je prends mon enfant par le bras... ou que, mettons, c'est le temps de partir de quelque part, puis il veut pas, puis que je fais « Ah oui, tu t'en viens, puis je te prends par la main, puis je te force à suivre un peu », bien, quand on me dit que c'est de la violence que je fais, bien, c'est sûr que je capote, je l'aime, cet enfant-là, je l'ai au monde. Je veux pas être violente.
Ben, ce titre-là, j'ai été violentée sur un méchant temps. Hein?
Bien, on a tous été
violentes. Non, mais tu comprends, c'est parce qu'il m'a amené.
Bien oui. Il y a une formation qui circule présentement beaucoup, financée par notre beau gouvernement, qui dit aux parents, quand on